Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
En parcourant le paysage de nos bocages, de notre joli bocage ou des plaines toircaises et niortaises, on peut voir de jolis maillages jaunes intenses, lumineux, qui se complètent bien donc avec la verdure du printemps. C'est joli et c'est utile. Mais cela ne sent pas toujours bon, à vrai dire. Ludo, j'ai pas vraiment remarqué. Tu nous parles du colza.
Colza, voilà, c'est joli jaune, hein, puisque le colza est en floraison. Donc début, milieu ou fin de floraison, hein, selon les variétés. Mais cela les rend visibles en tous les cas à des centaines de mètres pour vos balades.
C'est vrai que c'est beau.
Prenez ce plaisir là. Ce colza, en fait, c'est un croisement naturel entre un chou et une navette.
D'où son odeur.
D'où son odeur plus tard, ouais. Donc la navette, hein, c'est une vieille plante qui ressemble au colza, cultivée pour ses graines, mais elle est moins productive. Et le colza, cela vient du flamand colza ad, littéralement, sans accent, qui signifie graine de chou. Donc on retombe sur nos pieds, Jacqueline. Alors aujourd'hui, on parlera du colza oléagineux, puisqu'il existe aussi du colza fourrager, lui, destiné à être pâturé ou récolté pour les animaux.
Le colza oléagineux, pour l'huile donc, essentiellement.
Olé.
On le sème quand? Récolte quand? Pesticides ou non? Dis-nous tout, Ludo.
On le sème vers le 15 août, hein, donc idéalement avant une pluie pour réussir à l'élever, hein, c'est un point délicat. Le colza va rester 10 mois dans le champ pour être moissonné à partir de fin juin, début juillet, donc avec un rendement moyen observé de 35 quintaux à l'hectare en système conventionnel. Et alors il se conduit en bio également. Donc pesticides, oui, mais seulement conventionnels, hein, bien sûr. Et c'est un des points faibles du colza, avec les besoins en engrais. Donc c'est une excellente plante, hein, pour structurer la terre et casser le cycle des maladies sur les céréales, donc dans la rotation. Aujourd'hui, le colza oléagineux, hein, il sert pour l'huile alimentaire, bien sûr. Le tourteau de colza que l'on donne aux animaux pour la protéine. Il sert pour les biocarburants. Et enfin, il sert aussi à faire du miel, Jacqueline.
Alors, si son point faible, ce sont les pesticides et les engrais, il n'est pas si bienfaiteur que ça, finalement, le colza, malgré ses atouts, son large éventail d'utilisation dont tu viens de nous parler.
Il n'est pas parfait, rien de parfait dans ce monde.
Et voilà.
Surtout si on traite sans raisonnement. Alors, pour la culture du colza en conventionnel, on utilise souvent un herbicide, un ou deux fongicides et un ou deux insecticides. Mais plusieurs choses, hein, se développent pour limiter ces pulvérisations, comme l'association de plantes ou la mise en place de bioagresseurs. Donc rien de parfait, mais pour le côté positif, le colza limite les importations d'huile de palme, qui elles sont compétitives, mais contribuent à la déforestation et au réchauffement climatique.
Et qui sont très mauvaises pour la santé.
En plus, alors que le colza est plutôt bienfaiteur.
Et les pesticides pour les abeilles?
Eh bien les abeilles et les
abeilles.
Autres pollinisateurs, hein, parce qu'il n'y a pas que les abeilles, hein, qui butinent énormément ces fleurs de colza, mais ce sont l'une de leurs principales sources de nourriture au printemps, hein, clairement. Donc pour limiter l'impact des pesticides, hors néonicotinoïdes, hein, qui sont interdits, on a réussi. L'arrêté du 28 novembre 2003, donc c'est assez vieux déjà, demande, hein, sur les cultures dites attractives pour les abeilles et pendant la floraison de pulvériser dans l'intervalle de 3 heures après le coucher du soleil, selon l'éphéméride. Donc les abeilles étant en théorie retournées à la ruche. Donc la FNSEA, hein, a obtenu une révision de cet arrêté-là le 20 novembre dernier. Donc l'arrêté tolère ainsi aujourd'hui, jusqu'en juillet 2022, les traitements 2 heures avant le coucher du soleil. Et ça sans contrainte horaire, hein, si la température est en dessous des 12 degrés. Donc l'argument était de limiter le travail de nuit pour les agriculteurs. Eux, les apiculteurs, sont assez mécontents, voire très mécontents de cette modification d'arrêté.
On peut les comprendre. On peut tout de même avoir du miel de colza?
Alors vous en trouverez facilement, hein, du miel de colza, souvent sous la dénomination de miel de printemps ou miel toute fleur, hein, puisque le miel de colza, il est souvent mélangé pour adoucir sa saveur.
L'huile alimentaire, Ludo, combien d'huile peut-on faire avec 1 kilo de colza?
Allez, pour 1 kilo, alors, ça va dépendre beaucoup de choses.
Ouais.
Bah, je trouve que c'est déjà pas mal, mais en fait, parce que ça va dépendre de la variété, de la presse à huile que vous avez, hein, et de la graine. Mais pour le colza, on compte entre 40 et 50% de rendement. C'est-à-dire que pour un rendement à 35 quintaux, vous allez réussir à avoir entre 900 et 1600 litres avec 1 hectare.
Ouais, enfin, c'est presque du simple au double, là.
Oui, ça va dépendre essentiellement des rendements. 900 litres, en fait, vous pourrez avoir des rendements à 20 quintaux. Et le rendement du colza varie aussi. Donc en bio, hein, logiquement, vous aurez un peu moins puisque les rendements sont moindres. Et bon, si on estime une moyenne, on peut dire un bon tiers de moins, donc environ 600 litres. Donc on a l'exemple, hein, pas loin, d'un GAEC à Noirlieu, hein, qui produit son colza bio, le transforme en huile alimentaire, qui ensuite le vend au plaisir fermier sous la marque Huile du Paty. Et lui, il donne son tourteau de colza, donc le déchet de son pressage, hein, pour obtenir l'huile, à ses vaches laitières, pour équilibrer sa ration en hiver lorsqu'il n'y a moins de pâturage. Donc c'est plutôt bien vu,
pour la
d'un
protéine,
point de vue
donc.
Bon sens. Oui, le tourteau, c'est pour la protéine.
Le colza sert au biocarburant, alors?
Oui, alors biocarburant, hein, cela vient du vivant. Hein. Le bio, ça vient de la biomasse. Ça n'a rien à voir avec la bio, l'agriculture bio. On est d'accord là-dessus. Donc l'huile de colza, hein, elle est estérifiée et mélangée au gasoil. Parce que ça aussi, c'est à ne pas confondre avec l'essence qui contient de l'éthanol, qui lui vient de la betterave ou de la pomme de terre. Donc le colza, hein, il représente à peu près 65% de la production de biogasoil aujourd'hui en France.
Et l'on dit souvent qu'il ne sent pas très bon, donc.
Oui, mais rappelez-vous, hein, on a dit qu'il était croisé avec du chou. Voilà, donc en floraison, ça libère une odeur pas forcément agréable. Et puis ajouter à cela un traitement, un ou deux traitements chimiques, hein, et ben ça fait un cocktail qui n'est pas forcément très terrible au nez.
Le colza laisse une impression donc mitigée, mais il a des capacités à répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain.
Oui, alors le colza, il essaie en plus de gagner ses lettres de noblesse auprès du consommateur et d'alerter sur le fait qu'il n'y a pas la nécessité, en tout cas, ou qu'il y a nécessité d'augmenter les surfaces. Donc, et la guerre contre l'Ukraine va l'aider puisque son prix a triplé aujourd'hui pour la graine du colza. Cela devrait rendre attractif en fait sa mise en place pour les agriculteurs cet été. Donc au semi au mois d'août. Une campagne de pub a été lancée cet hiver, expliquant que le colza est une chance pour la France et sa souveraineté alimentaire. Le slogan était « Qu'est-ce qui est jaune et qui n'attend pas ?» À votre avis?
Le colza, je suppose.
Oui, c'était bien le colza. Et en fait, ce slogan, il faisait référence à la célèbre blague d'Adrien, hein, d'il y a quelques années déjà, que les enfants se sont échangés en fait de la cour de récré et sur les réseaux. Et cette fameuse blague, c'était « Qu'est-ce qui est jaune et qui attend, Jacqueline ?»
Une vieille blague aussi. Jonathan.
C'est Jonathan. Et voilà.
Merci Ludo.
Allez, bonne journée, ciao.